7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour, le mystère toujours non élucidé des chevaux mutilés a soulevé une fois encore la question de la souffrance animale. Les scandales dans les abattoirs, les vidéos de maltraitance dans les élevages diffusées par l'association L214 ont grandement contribué à sensibiliser l'opinion sur le sujet. Cet été, une pétition en faveur d'un référendum d'initiative partagée pour faire avancer la cause animale a été lancée. Comment lutter efficacement contre la souffrance animale ? Bonjour Muriel. Falaise.
Oui, bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université Jean Moulin Lyon 3. De quelle protection juridique bénéficient aujourd'hui en France les animaux ?
Alors, actuellement, l'animal est protégé. Il faut faire une distinction tout d'abord entre les animaux domestiques et les animaux sauvages, parce qu'une des particularités de la protection de l'animal, c'est qu'effectivement, il existe plusieurs catégories d'animaux. Pour simplifier les choses, on a deux grandes catégories, hein, l'animal domestique avec des sous-classifications, notre animal de compagnie, l'animal de production, l'animal qui est utilisé à des fins scientifiques, et l'animal sauvage qui est en situation de captivité. Et puis, il y a des animaux sauvages qui, donc eux, pareil, peuvent être classés en sous-catégories. Hein. Nous avons les espèces protégées, nous avons le gibier et les animaux qui étaient avant appelés les nuisibles, qui sont maintenant les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc, c'est vrai que la protection est différente pour les uns et pour les autres. Il faut savoir que les réglementations qui s'appliquent à ces différentes catégories ne se trouvent pas dans les mêmes codes. Donc, principalement, le code rural va protéger l'animal de production et le code de l'environnement va s'intéresser à l'animal sauvage qui, lui, finalement, n'existe qu'au travers du prisme de l'espèce. Donc, la protection qui existe pour les animaux domestiques, c'est une protection que l'on trouve dans le code pénal, notamment, et qui, effectivement, laisse à désirer, si on peut exprimer de cette manière-là.
Pour quelle raison ?
Alors, parce que notamment en ce qui concerne, la nature même de la sanction, hein, actuellement, notre code réprime, le code pénal réprime les actes de maltraitance, les actes de cruauté à l'égard des animaux, mais c'est vrai que ce qui est largement critiqué, notamment quand on fait une comparaison avec ce qui existe dans chez nos voisins européens, le niveau de sanction est relativement faible. Alors, pour préciser un petit peu les choses, quand il y a un acte de cruauté constaté à l'égard d'un animal domestique, l'auteur de l'acte de cruauté encourt une sanction qui est la suivante. Hein. Il peut se voir condamné à une peine d'amende d'un montant qui va s'élever au maximum à 30 000 euros et d'une peine d'emprisonnement qui peut s'élever jusqu'à 2 années d'emprisonnement. Et pour vous montrer là où il y a une incohérence, c'est que si la même personne vole un animal qui est donc le bien d'autrui, il peut se voir là, par contre, condamné à une peine d'amende qui peut s'élever à 45 000 euros et un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 années. Donc finalement, le vol de l'animal va être plus sévèrement sanctionné que l'atteinte physique qui peut être faite à l'animal.
Alors, du coup, qu'est-ce que vous préconiseriez comme réforme de cette législation, puisqu'on entend bien dans votre discours, Muriel Falaise, que celle-ci ne vous semble pas en l'état satisfaisante ?
Alors, effectivement, moi, il me semble qu'il y a plusieurs leviers hein, pour mettre en place un certain nombre de mesures destinées à mettre un terme à la souffrance animale. Alors, simplement une petite précision, quand on parle de souffrance animale, il ne faut pas avoir à l'esprit que la vision de la souffrance physique, comme vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de vidéos qui ont été diffusées, qui ont permis de prendre conscience pour tout un chacun quelle était la condition de vie, de transport, d'abattage d'un certain nombre d'animaux. Mais la souffrance, c'est pas seulement la souffrance, physique, physiologique, il y a également un autre aspect qui est la souffrance plus psychologique, puisqu'on s'est aperçu grâce à un certain nombre de données scientifiques, d'expériences scientifiques, que les animaux ont des capacités qui sont communes aux hommes. Hein. Ils peuvent exprimer certains états mentaux, le plaisir, la satisfaction, etc. Ils ont donc des capacités que l'on découvre. Et c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui conduit effectivement les citoyens à se mobiliser. Vous avez fait référence au référendum. Effectivement, il y a plus de 600 000...
Parce que là, la souffrance psychologique des animaux, il va falloir réussir à l'apprécier sans être trop anthropomorphe. Ce qui va poser quand même de gros problèmes de compréhension ou d'évaluation, Muriel Falaise.
C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des indicateurs, effectivement, d'autant plus que, comme pour chez nous les hommes, hein, chez les animaux, tout dépend de l'individu. Et tout va dépendre de la manière dont lui, le ressenti qu'il va avoir de sa vie. Un même individu, des individus placés dans les mêmes situations, des animaux d'une même espèce ne vont pas nécessairement avoir le même ressenti d'une même situation. Donc, il faut mettre en place des indicateurs, ce qui fait toute la difficulté. Alors, il y a effectivement, je vous le disais, plusieurs leviers à mon avis. Hein. Les différents leviers, c'est effectivement de renforcer la sanction quand il y a une atteinte à l'intégrité physique de l'animal, évidemment.
Bon, ça, on le comprend aisément.
Je crois que tout le monde est d'accord qu'il va falloir réformer effectivement ce point-là. Les autres leviers, c'est de renforcer la réglementation en interdisant toute pratique douloureuse qui va être génératrice de souffrance, qu'elle soit par les animaux domestiques, les cornages des veaux, le débécage, etc. On sait que c'est possible, hein, puisqu'il y a des dispositions notamment concernant la castration à vif des porcs qui devraient enfin ne plus exister à la fin de 2021. Il faut également mettre un terme, et là on en entend parler également, aux souffrances subies par les animaux sauvages. Là, on parle régulièrement en ce moment de la chasse à la glu, de la question des déterrages et de la mise à mort des blaireaux, des renards, mais toutes les techniques de piégeage, de chasse à courre, etc. La question, l'interdiction dans les cirques des animaux sauvages, il faut savoir que quand même la France se distingue de manière négative, hein, puisqu'il y a quand même 21 pays de l'Union européenne qui interdisent la présence totale ou partielle d'animaux sauvages dans les cirques. Nous, en France, pour l'instant, ce sont des arrêtés municipaux qui simplement permettent effectivement de ne pas accepter sur le territoire d'une commune des cirques qui utiliseraient des animaux sauvages. Donc, il y a un renforcement évident de la réglementation qui doit aussi passer par une évolution notamment des règles de traçabilité. On parlait de l'animal qui est utilisé effectivement pour permettre une consommation. Les consommateurs, je crois qu'ils ont démontré qu'ils voulaient faire des choix, pouvoir être en mesure de faire des choix responsables, et ça passe notamment par une évolution des règles de traçabilité. Alors certainement, au niveau européen, il faudra qu'on puisse obtenir la création d'un étiquetage obligatoire sur le bien-être, justement, et le mode des animaux. Donc ça existe pour certaines catégories, ça existe notamment pour le poulet. Il y a des organisations non gouvernementales qui ont mis en place un label avec 230 critères qui permettent d'obtenir effectivement en fonction du nombre et du niveau d'exigence des critères atteints, qui permettent d'obtenir si vous voulez, une classification un petit peu comme ce que l'on connaît tous pour les œufs. Donc l'idée, c'est de renforcer cette réglementation. Il me semble également qu'il va falloir que l'évolution passe par une approche plus globale. Alors on entend parler, vous en avez certainement entendu parler, de la question de la personnalité animale. Ce qui fait peur quand on évoque cette question de la personnalité juridique pour les animaux, c'est qu'on, en fait, vous parliez d'anthropomorphisme, il ne s'agit en aucun cas de ça. Hein. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, la personnalité juridique, c'est simplement une technique juridique qui va permettre de défendre des droits essentiels.
Et on la retrouve dans votre droit animalier. C'est l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Bréal. Merci beaucoup, Muriel Falaise. 7h23 sur France Culture.